que vous allez suivre est une rediffusion. Accent d'Europe, Léa-Lisa Westerhoff.
Bonjour, la Pologne s'apprête à élire un nouveau président dimanche. Et pour sortir vainqueur de ce scrutin, le chef de l'État sortant, le très conservateur Andrzej Duda et son parti Droit et Justice sont prêts à tout, ou presque. Comme lancer un curieux concours, à savoir récompenser les petites communes de moins de 20 000 habitants qui auront le plus été votées par la livraison d'un camion de pompiers, ou encore instrumentaliser la télévision publique polonaise, la TVP. C'est ainsi que le principal concurrent d'Andrzej Duda, le maire libéral de Varsovie, est devenu la nouvelle bête noire de la TVP, Tomasz Giraudeau.
Depuis que le maire de Varsovie talonne le chef de l'État, Andrzej Duda, candidat à sa réélection, la TVP sort les grands moyens, quotidiennement, fausses informations, manipulations et même complots. Tout est bon pour insinuer que Trzaskowski est dangereux pour la Pologne. Rafał Trzaskowski va-t-il laisser les Polonais se faire voler leur argent? Quels intérêts représente-t-il vraiment? Des titres affichés dans le journal du soir de la télévision publique sur fond d'image angoissante. Sa participation à une réunion avec des PDG et hommes influents, c'est le signe qu'il sert les intérêts des grands de ce monde et pas celui de son pays. Autre exemple, il y a plus de 20 ans, il obtient une bourse d'études via la fondation du milliardaire et philanthrope George Soros. Pour la TVP, Rafał Trzaskowski travaille donc maintenant pour un puissant lobby étranger qui veut faire entrer des migrants musulmans. D'autres reportages ont même des rôles antisémites quand il est accusé de vouloir restituer les biens juifs spoliés durant la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui détenus par des Polonais. Après plusieurs jours d'insinuations de ce type, le candidat a porté plainte contre la TVP pour diffamation et demander des excuses publiques. S'il est élu président, il a promis de supprimer la chaîne d'information du groupe public et le journal du soir. Ce dernier attire quotidiennement un peu moins de 3 millions de téléspectateurs et autant d'électeurs potentiels pour le président.
–4,2% en 2019. Ce chiffre, c'est celui des crimes et délits motivés politiquement en Allemagne. Ces agressions sont en hausse, qu'il s'agisse d'insultes, de crachats, d'agressions physiques ou de meurtres. Ce chiffre inquiète bien évidemment. À Berlin, la police a recensé 239 cas de violence envers des politiques en 2019. Et en Saxe, le nombre des agressions a même doublé en un an. Un climat anxiogène qui met en difficulté le fonctionnement même de la démocratie locale. Le reportage de Déborah Berlioz.
C'est l'heure du déjeuner à la Chambre des députés de Berlin, le parlement local de la ville. C'est ici que travaille Hakantas depuis 2011. Il est député pour le parti d'extrême gauche Die Linke et ce n'est pas un métier sans risque.
Je me suis beaucoup engagé en faveur des réfugiés. Et suite à cela, j'ai reçu des menaces de mort. Des symboles SS et des croix gammées ont aussi été peintes sur ma porte d'appartement. Et les pneus de ma voiture ont été crevés 3 fois alors qu'elle est garée dans un garage souterrain.
D'origine kurde, il est aussi souvent la cible d'attaques racistes et il ne compte plus les messages lui demandant de retourner dans son pays. Des violences quotidiennes qui concernent de plus en plus d'élus locaux. Selon un récent sondage, 64% des maires allemands ont déjà été victimes d'insultes ou d'attaques. L'an dernier, un élu conservateur de la ville de Kassel, Walter Lübcke, a même été assassiné à son domicile. Le meurtrier présumé est un néo-nazi, motivé par la politique de Lübcke en faveur des réfugiés. Paul Nolte est politologue à l'Université libre de Berlin. Selon lui, cette hausse des agressions s'explique en partie par une perte de confiance et de respect envers les élus et les représentants de l'État.
C'est aussi le résultat du processus de démocratisation. Nous ne voyons plus les politiques comme des sortes de demi-dieux à qui l'on ose à peine parler, mais comme des gens complètement normaux. Le problème, c'est que c'est allé encore plus loin. On n'a pas perdu seulement la déférence, mais aussi le respect de ces personnes. Et les discours populistes, avec leur rhétorique anti-système et anti-élite, ont largement accentuer le phénomène.
Hakantas le confirme, il est encore plus menacé depuis que l'Alternative pour l'Allemagne, l'AfD, est entrée au Parlement local de Berlin en 2016. Pourtant, les populistes comptent aussi parmi les victimes. À Berlin, la voiture d'un membre de l'AfD a été incendiée en mars dernier et 7 attaques contre des locaux du parti ont été recensées en 2019. D'ailleurs, Hakantas n'est pas visé uniquement par des extrémistes de la droite allemande. Ses fréquents commentaires sur la politique d'Erdogan lui ont également attiré la haine des nationalistes turcs. L'un d'eux l'a même blessé à la tête en 2017. Depuis, il bénéficie d'une certaine protection et des patrouilles de police passent régulièrement devant son domicile.
Au moins, ça se remarque. Les gens voient que je suis protégé par la police et cela va peut-être en dissuader certains de m'attaquer. Cependant, je ne peux pas être protégé 24 heures sur 24.
Pour les élus menacés, la police donne donc des conseils de sécurité. Hakantas a par exemple appris à être plus attentif lors des réunions publiques et à ne pas toujours emprunter les mêmes trajets. En tout, il a déposé au moins une centaine de plaintes, mais aucune n'a abouti.
Nous avons parfois l'impression que les autorités ne se montrent pas assez fermes contre l'extrême droite, contre la violence de droite et contre le racisme.
Pour autant, l'énergique député refuse de jeter l'éponge.
Nous devons au contraire nous battre davantage contre l'extrême droite et trouver des alliés dans ce combat. Car je pense que si nous abandonnons, nous avons déjà perdu.
Mais tous les élus ne réagissent pas comme lui. Selon un sondage, un tiers des maires allemands auraient décidé de ne pas se représenter à des élections par peur pour leur sécurité ou celle de leurs proches. Il devient donc urgent d'apaiser le climat politique. Pour Paul Nolte, il faut avant tout renforcer l'appréciation du travail des élus.
Ce n'est pas uniquement aux politiques et aux médias d'agir ici, c'est aussi à chacun de nous. Si l'on entend quelqu'un dire que tous les politiques sont des porcs corrompus, par exemple, il faut avoir le courage de le contredire et de souligner que ce travail mérite un certain respect.
Malgré les succès électoraux des populistes, le politologue est enclin à l'optimisme. Car la montée de l'AfD a aussi engrangé un contre-mouvement, et nombreux sont ceux qui se lèvent pour défendre une société démocratique et libérale. Par exemple, le mouvement Unteilbar, les Indivisibles, est né en 2018, et régulièrement des milliers de personnes répondent à son appel pour manifester contre le racisme.
Prendre des coups en politique, c'est souvent un passage obligé quand on veut être élu. Sauf que cette violence se banalise, surtout quand on est une femme, et encore plus quand on est actif sur les réseaux sociaux. D'après une étude de l'Union interparlementaire et du Conseil de l'Europe, près de la moitié des femmes parlementaires ont déjà reçu des menaces de mort, de viol ou de passage à tabac. L'une d'entre elles s'appelle Adamara. Le 4 mars dernier, cette députée suisse a demandé l'aide de son parlement et elle a voulu faire entendre cette violence. Jérémy Lanche.
Connasse, pourquoi ta mère n'a pas plutôt avalé ? Allez, viens débattre, sale pute. Une balle dans la tronche et cela te fera beaucoup de bien.
Des insultes et des menaces comme celle-ci, Adamara en a reçu un certain nombre depuis sa première élection en 2004. Suffisamment pour lire une sorte de florilège à la tribune du Parlement et tenter de convaincre ses collègues de créer une équipe chargée d'identifier les auteurs des insultes envers les élus pour pouvoir les poursuivre en justice.
Pour moi, c'était la démarche qui était intéressante. C'était de dire, tout le monde en parle, mais moi, je vous lis, je vous dis, j'incarne le mot, quoi. Et les gens, les collègues et les gens dans la rue, ils m'ont écrit en disant on était choqués, on ne savait pas, on ne se rend pas compte que c'est aussi violent.
La prise de parole de la députée socialiste a été saluée de tous les côtés de l'échiquier politique, y compris par des élus venant de la droite dure, alors qu'ils s'opposaient dans le même temps à la pénalisation des insultes homophobes dans l'espace public. Adamara reconnaît que les élus ne sont pas les seuls à faire l'objet de menaces, mais ce sont eux qui doivent pouvoir inverser la tendance.
On est des personnages publics, donc les gens pensent qu'on mérite ce qui nous arrive. Autrement dit, que nous devrions supporter l'insulte, la menace de mort, sans que ça n'engage personne, ni celui qui écrit, ni la justice. Donc je crois qu'il est bon de rappeler au temps des réseaux sociaux, parce que c'est devenu un problème collectif, eh bien les réponses elles doivent aussi être collectives et on doit se saisir de ça.
La députée a tout de même dû retirer la motion qu'elle avait déposée de peur qu'elle soit refusée in extremis. En échange, le Parlement a accepté de remettre le sujet sur la table cet automne et de faire le point sur le service d'aide juridique à destination des élus qui existe déjà dans des cas de harcèlement mais qui ne semble pas fonctionner.
En septembre, il y aura une table ronde qui réunira les services juridiques, les services de la police ainsi que certains politiciens pour discuter du processus qui existe actuellement au Parlement, pourquoi il n'est pas efficient, pourquoi il est peu connu, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et ensuite on prendra les mesures qu'il faudra après cette table ronde. C'est très suisse. D'abord on fait des tables rondes et des rapports et on prend les mesures. Mais quand elles sont prises, elles fonctionnent.
En attendant, Adamara récolte déjà les fruits de sa sortie au Parlement et ils vont bien au-delà du seul effet cathartique.
Depuis lors, moi, on m'emmerde beaucoup, beaucoup moins.
I'm British and that makes me unique. At least I think so when I hear you speak. See, we used to have an empire but we got a little cocky like.
Depuis le traité de Maastricht et la création d'une citoyenneté européenne, on peut voter aux élections municipales de son pays européen d'adoption. Mais on peut aussi se faire élire comme conseiller municipal. C'est le cas de plus de 750 Britanniques en France, ou plutôt, c'était le cas, car le Brexit a changé la donne. Tous ces édiles ont eu l'autorisation de siéger jusqu'à la fin de leur mandat, à savoir le deuxième tour de ces élections municipales. Mais c'est le cœur gros qui lâche ses responsabilités, qui symbolisaient leur intégration et leur à laquelle il croit. Le reportage en Normandie de Frédéric Lebel.
Il pleut des cordes à Perrier en Beauficelle. Patrick Head nous a donné rendez-vous devant le café-restaurant où il a ses habitudes. Voilà 26 ans que ce natif du Wiltshire a décidé de changer de vie et c'est tout naturellement qu'il a choisi la Normandie qui peut se targuer d'un atout majeur.
Le climat, c'est pareil que l'Angleterre. Nous, les gens qui sont nés Nord-Europe ne sont pas habitués à grosse chaleur.
Avec sa femme, le sexagénaire a décidé de jouer à fond la carte de l'intégration. Cours de français, travaille dans l'usine Lactalis de la région et surtout une élection en 2014 au conseil municipal où il a recueilli sur son nom le plus grand nombre de voix, 89,74% des bulletins, autant dire la consécration.
Pour moi, un inconnu, un étranger, j'étais complètement étonné. Mais les autres conseillers m'ont expliqué, c'est parce que vous êtes complètement neutre. Il n'y a pas des histoires entre les familles. Et dans les petites communes, il y a toujours les, pas les bagarres, mais les histoires.
Mais cette belle histoire européenne a une fin qui s'appelle Brexit. Patrick Head ne pourra plus siéger au conseil municipal, ce qui lui laisse un goût amer.
J'ai l'impression, pour moi, je suis licencié. C'est pas la vérité, parce que c'est fin du mandat. Et tout le conseil doit être élu, même monsieur le président ou madame la présidente, dans un quelque temps, on ne sait pas. Mais pour moi, j'ai eu l'envie de continuer.
Ce bon vivant compte bien toujours donner un coup de main au comité des fêtes, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle le plein exercice de la démocratie. En tant que citoyen britannique expatrié depuis longtemps, on peut même dire qu'il est victime d'une double peine.
Nous sommes installés ici en France plus que 15 ans. On a perdu le droit à voter en Angleterre après 15 ans. Et à partir de fin de l'année, j'ai plus de vote. En France, ni en Angleterre.
Pour ses compatriotes britanniques nombreux dans la région, Patrick gardera encore le rôle d'intermédiaire bienveillant. Les conséquences pratiques du Brexit ne sont toujours pas précisées, mais il refuse de tomber dans la paranoïa. À quelques dizaines de kilomètres de là, toujours dans la Manche, le village de Gatmaux compte une centaine de maisons et un tiers de résidents britanniques. Suzanne Pierce parle désormais au passé de son mandat de conseillère municipale, tout comme le maire, Patrick Giroux, qui va prendre sa retraite après 30 ans de bons et loyaux services, deux élus qui se regrettent déjà.
Je pense que j'ai fait le maximum que j'ai pu pour ma commune, enfin notre commune, parce que c'est un conseil. Puis on a eu la chance d'avoir des Anglais dans notre commune, beaucoup d'anglais.
Et mais c'est vrai, avec Gatmaux, j'étais très bien accueillie dès le départ. Hein. C'est très chaleureux.
Non, mais c'est vrai que Suzanne, elle parle bien le français déjà. Et c'est pas le cas de tous les anglais, parce qu'il y en a combien, un quart qui parle le français, quoi.
Peut-être, si vous avez de la chance, oui.
On parle pas trop l'anglais et pour les permis de construire, c'est compliqué, quoi.
Interprète, mais pas seulement, Suzanne, qui a sa propre agence immobilière, a beaucoup fait pour désenclaver Gatmaux et rendre le village plus attrayant pour ses compatriotes.
On s'est impliqué pour le Internet parce que Gatmaux, c'était une zone blanche. Donc maintenant, on est mieux parce qu'on a la fibre optique. Mais c'est vraiment très bien. Donc, pour avoir les gens, pour pouvoir expliquer ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent s'abonner et tout ça, c'est une belle réussite. Hein.
Suzanne est aujourd'hui en colère, surtout contre un gouvernement britannique qui ne prend pas assez soin, selon elle, de ses expatriés.
J'ai eu un couple âgé britannique hein, qui m'ont appelé parce que j'ai une page sur Facebook. Hein. Ils ont vu quelque chose par le Brexit ou quelque chose comme ça. Ils m'ont appelé. Il était en larmes, le monsieur. Il était dans ses 80 ans. Malade, sa femme aussi, il désespérait, il savait pas quoi faire. Parce qu'il peut, il n'a pas le moyen de payer pour sa traitement, sa carte vitale, si ça changeait. Et vraiment, ça m'a fait mal au cœur.
Pour poursuivre son travail de citoyenne, Suzanne ne voit qu'une solution, demander la nationalité française. Cela peut prendre des années, mais cela lui laisse le temps de préparer les élections municipales de 2026 dans une autre commune, Sourdeval, où elle est désormais résidente.
Et comme tous les mercredis, on retrouve notre chronique en un mot. Au menu aujourd'hui, le Mérac. Dans les Balkans, tout le monde le connaît, ce moment où l'on se sent parfaitement bien, mais qui n'a rien à voir avec la conception occidentale du plaisir, souvent très matérialiste. Le Mérac, c'est un peu l'exact contraire de la saudade portugaise, mais une chose est sûre, le mot pose de sérieux problèmes de traduction. Les explications de Simon Rico.
Mérac est un terme turc qui dériverait de l'arabe maraki et qui est arrivé dans les Balkans avec les Ottomans, dont l'Empire a dominé la région du XIVe au début du XXe siècle. Dans les dictionnaires de Bosnie-Herzégovine, du Monténégro, de Serbie et de Croatie, qui partagent tous cette langue qu'on désignait sous le nom de serbo-croate avant les guerres des années 1990, on a tendance à le définir comme signifiant plaisir, envie, passion ou élan. Mais ce terme désigne tout à la fois la finesse, la subtilité, la délicatesse, la douceur, mais aussi l'envie de quelque chose, la bonne humeur. Autant dire que le transposer dans une langue étrangère est une gageure pour les traducteurs, comme le confirme Chloé Billon, qui traduit du serbo-croate vers le français.
C'est ce qu'on appelle un intraduisible, et suivant le contexte, ça peut être traduit différemment. Par exemple, dans certains contextes, c'est l'envie, et sinon, c'est un moment de plaisir où on se sent bien. Et donc finalement, ça dépend du registre linguistique, bien entendu. Mais peut-être que je prendrais, pour traduire ce mot d'origine turque, un mot d'origine arabe, c'est le kiff, le merak.
Depuis que l'Empire romain a été divisé en deux au IVe siècle, les Balkans sont devenus un carrefour au sein du continent européen, une zone tiraillée entre l'Orient et l'Occident. La région a aussi été convoitée et même séparée entre deux grands empires, ottomans et austro-hongrois, de la fin du Moyen-Âge jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et ces influences civilisationnelles, on les retrouve dans les langues locales. En serbo-croate, par exemple, les mots turcs occupent toujours une place importante.
Alors il y en a beaucoup. Bien entendu, il y en a plus en Serbie et en Bosnie-Herzégovine, parce qu'elles ont été sous l'Empire ottoman. Il y a cependant des mots d'origine turque qui sont dans toutes les versions des langues ex-yougoslaves. Je pense par exemple au mot bašta pour dire le jardin, zanat, l'artisanat. Finalement, la plupart de ces mots sont vraiment rentrés dans la langue. Ils sont devenus serbo-croates à part entière, pour ainsi dire. Et des mots par exemple comme pazar, donc qui c'est la foire, le marché, même été slavisé pour en faire des verbes. On dit « pazariti », c'est aller faire ses courses, aller marchander.
En réalité, le mot « mérac », c'est un peu le symbole de cet esprit oriental qui continue de s'épanouir dans les Balkans, où l'on revendique autant son enracinement européen que son identité particulière au sein du vieux continent. Mais concrètement, alors c'est quoi le mérac ?
C'est une manière de profiter de la vie, et de l'instant présent, même si on n'a pas grand-chose. Peu importe de quoi demain sera fait, au moins on peut profiter aujourd'hui d'être ouvert à l'imprévu et vraiment, oui, de savoir savourer l'instant. C'est le temps oriental. Le temps est très différent dans les Balkans.
S'ils se disputent sur bien des points, les Balkaniques se montrent en tout cas tous d'accord quand il s'agit de vanter les mérites du Mérac, cette propension à savoir jouir des petits plaisirs invisibles ou négligés. Il y a quelques années, plusieurs journaux de Bosnie-Herzégovine avaient ainsi demandé à leurs lecteurs s'ils étaient pour l'instauration d'une journée du Mérac, et plus de 93% avaient répondu que c'était une excellente idée. Malheureusement, cette journée n'a toujours pas été créée.
Françoise Grelot était à la réalisation aujourd'hui. Pour nous écouter, nous retrouver à toute heure et à tout moment, rendez-vous sur notre site rfi.fr ou via notre podcast Accent d'Europe sur votre plateforme préférée. À demain.